Chapitre 75. On s'étonnait que César, ayant tant de choses à faire en Afrique, restât à Rome. Il avait Ligarius à faire condamner et Cléopâtre à recevoir. Quintus Ligarius avait porté les armes contre César et, démentant toutes ses habitudes de miséricorde, César le voulait faire condamner. Il fallait un accusateur. Un accusateur était plus facile à trouver qu'un défenseur. Tubéron accusa. Ligarius pria Cicéron de se charger de sa défense. Cicéron accepta. À propos, disons comment Cicéron était revenu à Rome et ce qui s'était passé entre lui et César. Cicéron était à Brindes, toujours hésitant, demandant conseil à tout le monde. Lorsqu'il apprit que César était débarqué à Tarente et venait par terre à Brindes, il alla au-devant de lui, certain de le fléchir, mais honteux cependant d'avoir à éprouver, en présence de tant de monde, les dispositions d'un ennemi vainqueur. Mais dès que César l'aperçut sur le chemin, il descendit de cheval, l'embrassa, et pendant plusieurs stades ne s'entretint qu'avec lui. Toutefois, malgré ces bons procédés de César, Cicéron n'en accepta pas moins la défense de Ligarius. Lorsqu'on annonça à César que c'était Cicéron qui défendrait l'accusé, « Ah, dit-il, j'en suis enchanté !» Puis, se tournant vers ses amis, « Et vous aussi, n'est-ce pas? Je me fais une joie d'écouter Cicéron, que je n'ai pas entendu depuis si longtemps. »« Mais Ligarius ?» demandèrent les assistants. « Ligarius, répondit César, est un méchant homme qui serait condamné, quand même Apollon plaiderait pour lui. » Cependant, le jour arrivé, Cicéron, ayant pris la parole, plaida si admirablement bien que César ne put s'empêcher, à certains passages, d'applaudir, à d'autres de changer de couleur. Et quand l'orateur en vint à la bataille de Pharsale, César fut en proie à une telle émotion qu'il laissa tomber les papiers qu'il avait à la main. Enfin, dit Plutarque, vaincu par l'éloquence de Cicéron, César renvoya Ligarius absous. Ce que nous allons dire est bien étrange, mais nous croyons que Plutarque se trompe à l'endroit du prétendu acquittement de Ligarius. Ligarius ne fut point condamné à mort, c'est vrai, mais toute l'éloquence de Cicéron ne put empêcher qu'il ne fût condamné à l'exil. Nous trouvons la preuve de cette assertion dans cette lettre de Cicéron à Ligarius. Rome, en 708, septembre. Mon amitié doit à vos malheurs des consolations et des conseils. Si je ne vous ai pas écrit jusqu'à ce moment, c'est que je cherchais en vain des paroles pour adoucir vos maux et des secrets pour les guérir. J'ai aujourd'hui plus d'une raison de croire que vous nous serez rendus et je ne puis me défendre de vous parler de mes espérances et de mes vœux. César ne vous tiendra pas rigueur. Je le devine et je le vois, la nature de ses griefs, le temps, l'opinion publique et même, ce me semble, son propre caractère, tout continue à lui inspirer chaque jour plus de modération. J'en ai la conviction pour les autres, et quant à vous, personnellement, ses amis les plus intimes me l'assurent. Depuis les premières nouvelles d'Afrique, je ne cesse de le harceler, de concert avec vos frères. Leur courage, leur vertu, leur incomparable tendresse, leur activité toujours éveillée, ont si bien fait que César n'est plus, selon moi, en situation de nous rien refuser. Le reste de la lettre n'est qu'une paraphrase de la modération et de la clémence de César. Mais pour n'en être pas arrivé à faire absoudre complètement Ligarius, le discours de Cicéron, plus heureux cette fois comme orateur qu'il ne l'avait été en plaidant pour Milon, le discours de Cicéron n'en était pas moins excellent. L'affaire de Ligarius terminée, César tourna les yeux du côté de Brindes. Cléopâtre, qui fera plus tard si grande peur à Horace, venait d'y débarquer avec son mari de 11 ans. César les reçut tous deux dans son palais, et tandis qu'on gardait soigneusement Arsinoé pour le triomphe, il leur donna des fêtes magnifiques, les fit admettre au nombre des amis du peuple romain, et, ayant érigé un temple à Vénus victorieuse en souvenir de Pharsale, il fit fondre une statue en or de Cléopâtre et la plaça dans le temple en face de celle de la déesse. Ces honneurs rendus à Cléopâtre déplurent fort au peuple romain. Mais César sentait bien qu'il pouvait tout risquer et, à son tour, le vertige le gagnait. Enfin, Cléopâtre retourna en Égypte, sans quoi, enlacé dans les replis de la couleuvre du Nil, comme César l'appelait, Jamais il ne fut parti. L'Afrique tenait ferme pour Pompée. Revenons à Caton que nous avons un peu oublié depuis le jour où nous l'avons vu rentrer en pleurant à Dyrrachium à l'aspect du massacre des prisonniers. Nous avons seulement dit que Pompée, qui avait peur de lui, l'avait laissé à Dyrrachium pour garder les bagages. Après la déroute de Pharsale, Caton s'était posé deux hypothèses. Le cas où Pompée serait tué, le cas où Pompée vivrait. Si Pompée était tué, Caton ramenait en Italie les soldats qu'il avait avec lui et fuyait ensuite lui-même pour aller vivre le plus loin possible de la tyrannie. Ce que Caton appelait la tyrannie, ce n'était pas précisément la tyrannie. C'était, si doux qu'il fût, le gouvernement de César. Si Pompée vivait, il rejoindrait Pompée partout où Pompée se trouverait. Ignorant encore ce qui était arrivé en Égypte, mais sachant que Pompée avait été vu sur les côtes d'Asie, il passa à Corcyre, où était l'armée navale. Il y trouva Cicéron et voulut lui céder le commandement. Cicéron était consul et Caton n'était que prêteur. Or, Caton ne connaissait que la loi. Cicéron refusa. Il était déjà décidé à faire sa paix avec le vainqueur. Conjecturant, par la route que suivait Pompée, qu'il se retirait en Égypte ou en Afrique, et pressé de le rejoindre, Caton s'embarqua avec tout ce qu'il avait de soldats. Mais, avant de remettre à la voile, il laissa à chacun la liberté ou de rentrer en Italie ou de le suivre. Arrivé en Afrique, il rencontra, en longeant la côte, le jeune Sextus Pompée, le même qui avait été l'amant de Cléopâtre et qui devait plus tard se faire une réputation en rétablissant la piraterie détruite par son père. Il apprit par lui la fin malheureuse de Pompée. Alors il n'y eut pas un de ceux qui l'accompagnaient qui, sachant Pompée mort, voulut suivre un autre chef que lui. Caton eut honte de laisser tant de braves gens seuls et sans secours sur une terre étrangère. Il accepta donc le commandement et vint prendre terre à Cyrène. Peu de temps auparavant, les habitants de Cyrène avaient fermé leurs portes à Labiénus. Mais ce que l'on refusait à Labiénus, on l'accordait à Caton. Caton fut reçu à Cyrène. Là, il attendit les nouvelles. Elles ne se firent pas attendre. Caton apprit bientôt que Scipion, le beau-père de Pompée, était passé en Afrique et avait été admirablement reçu à Cirta par le roi Nubie de Juba. Attius Varus, à qui Pompée avait donné le gouvernement de l'Afrique, l'y avait précédé avec son armée. Caton résolut de les aller joindre et, comme on était en plein hiver, de les aller joindre par terre. Il rassembla une grande quantité d'ânes et les chargea d'eau, puis se mit en route avec un grand nombre de chariots et un bagage considérable. Il emmenait avec lui plusieurs charmeurs de serpents qui guérissaient la morsure des reptiles les plus venimeux en suçant la plaie avec la bouche. La marche dura 7 jours. Pendant ces 7 jours, Caton fut constamment à la tête des soldats, marchant toujours à pied, mangeant assis. Car à la suite de la bataille de Pharsale, il avait fait vœu de ne se coucher que pour dormir. Caton passa l'hiver en Afrique. C'est pendant cet hiver-là que César luttait à Alexandrie contre les Égyptiens de Ptolémée. Si Caton, Varus et Scipion eussent réuni leurs 30 000 hommes et se fussent joints à Ptolémée, qu'advenait-il de César? Mais non, Varus et Scipion se disputaient à la cour du roi Juba et ce mauvais petit roi numide profitait de cette mésintelligence pour prosterner à ses pieds deux des grands noms de Rome. Caton arriva à l'ancienne Cirta, la Constantine d'aujourd'hui, et demanda audience à Juba. Juba accorda l'audience, mais pour recevoir Caton, prépara 3 sièges. Un pour Scipion, un pour Caton, et le sien au milieu. Mais Caton n'était pas homme à passer de pareilles impertinences à un petit roi numide. Il prit le siège qui lui était destiné et le porta près de celui de Scipion, et ainsi il se trouva que Scipion et non Juba devint le personnage important de la conférence. Et cependant, Scipion était l'ennemi de Caton, ayant publié contre lui un libelle rempli d'injures. Caton fit plus. Il réconcilia Scipion et Varus, leur faisant comprendre le grand tort que leurs dissensions occasionnaient au parti qu'ils défendaient. Ces querelles éteintes, tous déférèrent d'une seule voix le commandement en chef à Caton. mais Caton était trop strict observateur des lois pour accepter. Caton n'était que propréteur et Scipion avait été proconsul. D'ailleurs, le nom de Scipion, populaire en Afrique, inspirait la plus grande confiance aux soldats et un oracle affirmait, disait-on, qu'un Scipion serait toujours vainqueur en Afrique. Scipion prit donc le commandement de l'armée. Par malheur, il fut, dès le premier ordre qu'il donna, en opposition avec Caton. Utique et Cirta étaient rivales. En outre, Utique avait pris ouvertement le parti de César. Scipion, pour satisfaire sa haine, mais surtout pour complaire à Juba, avait résolu de faire égorger tous les habitants d'Utique, sans distinction de sexe ni d'âge, et de raser la ville jusqu'en ses fondements. Caton, en plein conseil, s'éleva à grands cris contre cette violence, se déclarant le protecteur de la ville condamnée et demandant à en être nommé gouverneur, afin qu'on fût certain que, lui vivant, elle ne se rendrait jamais à César. Au reste, Utique était une place de grandes ressources pour celui qui l'occuperait. Elle était abondamment pourvue. Caton ajouta de nouvelles fortifications aux anciennes, répara les murailles, augmenta la hauteur des tours, environna toute la place d'un fossé profond, tout garni de forts, logea dans ses forts, après l'avoir désarmé, toute la jeunesse d'Utique, dont l'opinion césarienne était connue, retint le reste des habitants dans la ville et fit d'immenses provisions afin que cette ville hostile autrefois, soumise et réfrénée, devint le magasin de l'armée. Puis, comme on attendait César de moment en moment, le conseil qu'il avait donné à Pompée, il le donna à Scipion. C'était de ne point livrer bataille à un ennemi courageux et expérimenté, de traîner la guerre en longueur et de tout attendre du temps. Scipion méprisa le conseil et, en sortant, murmura à l'oreille de ses amis « Décidément, Caton est un lâche. » Puis il lui écrivit « Ne te suffit-il pas, ô prudent Caton, de te tenir enfermé dans une ville bien fortifiée sans vouloir empêcher les autres de saisir une occasion favorable d'exécuter ce qu'ils ont résolu ?» Caton lut la lettre et, sans s'émouvoir, il répondit « Je suis prêt à repasser en Italie avec les troupes que j'ai amenées en Afrique. J'avais amené 10 000 hommes pour vous délivrer de César et l'attirer sur moi. » Mais Scipion leva les épaules aux offres de Caton. Alors Caton commença de reconnaître la faute qu'il avait faite en cédant le commandement à Scipion. « Scipion, disait Caton à ses intimes, je le vois bien maintenant, conduira mal la guerre. Mais si, par un hasard inespéré, il était vainqueur, je déclare d'avance que je ne resterai pas à Rome pour y être témoin des atroces vengeances de Scipion. » Pendant ce temps, César en avait fini de ses amours avec Cléopâtre et s'était embarqué pour la Sicile où le retint un instant le vent contraire. Mais pour que l'on connût bien sa volonté de passer immédiatement en Afrique, il fit dresser sa tente au bord de la mer et, comme le vent favorable était arrivé, n'ayant qu'un petit nombre de bâtiments, il partit avec 3 000 hommes de pied et quelques chevaux, les débarqua sans qu'ils eussent été vus et se remit en mer pour s'informer de ce qu'était devenu le reste de son armée dont il était inquiet. Au bout de 2 jours, il la rencontre et l'amène au camp. En mettant le pied sur la terre d'Afrique, le pied lui manque, il trébuche et tombe. Mais il se relève, serrant une poignée de sable dans chaque main en s'écriant « Terre d'Afrique, je te tiens !» Grâce à la présence d'esprit de César, de mauvais, le présage était devenu bon. Restait l'oracle. Un Scipion sera toujours vainqueur en Afrique. On rappela cet oracle à César. « C'est bien, dit-il, mais l'oracle n'a pas dit qu'un Scipion n'y serait jamais vaincu. » Et prenant dans son camp un homme obscur et méprisé, mais de la famille des Scipions, qui se nommait Scipion Salutius, il le nomma impérator et le plaça à l'avant-garde de son armée, dont il se réservait le suprême commandement. Voilà donc où en étaient les choses en Afrique lorsqu'y débarqua César.